Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt?
Juste un droit.
Hey! Oui, chef. Bien sûr, patron. Quand un homme ou une femme travaille pour un autre, contre rémunération, la relation ne part pas franchement sur un pied d'égalité. Depuis l'interdiction du travail pour les enfants de moins de 8 ans en 1841, le droit du travail, puis le pavé qu'est le code du travail, assure la protection des salariés contre toutes les formes d'abus dont ceux-ci peuvent être l'objet. Quand ça ne suffit pas, on passe à l'étape d'après, syndicats, avocats et prud'hommes entrent dans la danse. Une valse coûteuse, en temps comme en argent, mais qui peut être rentable quand la décision finale vous est favorable. Ça, c'était dans l'ancien temps, enfin, en 2017. Les ordonnances Macron, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, font un peu plus que rebattre les cartes entre patrons et salariés. Elles réécrivent une bonne partie des règles du jeu. Pour recompter les points et savoir qui du patron ou du salarié a la meilleure main, j'ai la chance d'être accompagné de Grégory Saint-Michel. Maître Saint-Michel, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du travail. Merci d'être à mes côtés pour cet épisode de Juste un droit, où l'on risque d'entendre pas mal de fois le mot travail. Ouais, j'ai compté, on est déjà à 6. On va commencer en se mettant un petit peu en immersion. Maître Saint-Michel, quand un employeur ou un salarié vient vous voir pour une affaire, quelles sont les premières questions que vous lui posez ?
Je lui demande en premier de bien vouloir me donner son contrat de travail, ses 12 derniers bulletins de salaire, de me dire quelle est la convention collective applicable, de me dire quelle est son ancienneté et de me dire si je devais avoir une baguette magique, ce qu'il souhaiterait que je fasse pour lui. Et ensuite, je lui demande quel est le montant qu'il souhaiterait obtenir.
Ok.
Et voilà le travail.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski ?
Quelle faille trouvez-vous le plus souvent dans les contrats de travail ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, un salarié vient pour une question qui lui est propre, quelque chose, une difficulté dans la relation contractuelle ou une demande particulière concernant les salaires ou un licenciement. Et souvent, j'essaye de déborder sur d'autres sujets en effectivement analysant le contrat de travail et les relations de travail pour voir s'il n'y a pas d'autres demandes à formuler que celles pour lesquelles mon client vient me voir. Parce que parfois, la demande même qui est celle de mon client ne peut pas être démontré et on doit avouer qu'il n'y aura que peu de chances d'aboutir à un succès sur cette demande-là. En revanche, il est très très rare de ne pas trouver un autre sujet sur lequel on peut avoir un succès.
Est-ce que ça voudrait dire donc que les salariés eux-mêmes sont assez peu au fait ou assez peu informés de leurs droits ?
Les salariés sont très très peu informés du droit, d'abord parce qu'il y a des lieux communs ou des conversations de comptoir dans lesquelles effectivement on vous annonce quelques vérités qui n'en sont pas et qui n'ont rien de légal, comme si vous êtes licencié pour faute grave, vous ne pouvez pas être au chômage. Rares sont ceux qui ont même une mince connaissance du sujet.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
Du coup, c'est en déséquilibre avec les patrons, qu'on imagine vachement plus connaisseurs quand même sur ces questions-là.
Quand vous êtes effectivement dans une société du CAC 40, il est certain que l'employeur a plus de connaissances que vous sur le droit du travail, puisqu'il a tout un service qui est dédié effectivement à cette matière. En revanche, pour tout ce qui est PME et petit employeur, eux-mêmes n'ont pas plus de connaissances que les salariés qu'ils embauchent du droit du travail, parce que c'est une matière extrêmement complexe, qu'effectivement la législation est pléthorique, et que même pour un spécialiste comme je suis, ça demande de travailler toutes les semaines et quasiment chaque jour pour se mettre au courant effectivement des dernières avancées législatives ou jurisprudentielles.
Ouais, donc l'avocat, c'est un peu la case obligée quand on se fait... Enfin, il y a un abus, par exemple, sur un licenciement.
On peut se défendre seul et on peut effectivement prendre un délégué syndical. Je ne leur fais pas injure. Il vaut mieux, en effet, si on compte gagner dans un litige ou même sans litige, simplement faire valoir ses droits et les demander auprès d'un employeur, il vaut mieux effectivement avoir recours à un avocat.
En cas de litige entre patron et salarié porté devant les prud'hommes, j'ai l'impression que c'est la roulette russe. Si vous êtes salarié, tombé sur un conseil prud'homal présidé par un représentant employeur, vous partez avec un vrai handicap. Est-ce que ça se voit en réalité ?
Il y a une réponse politiquement correcte à vous donner, qui est qu'effectivement, comme tous les conseillers prud'homaux, qu'ils soient employeurs ou salariés, ont une obligation bien évidemment d'impartialité et de juger par rapport au droit, à la jurisprudence. Enfin, même si on n'est pas dans un droit anglais où la jurisprudence fait le droit, mais il n'en demeure pas moins qu'on essaye toujours de la respecter. Bon, la réalité est qu'effectivement, les conseillers prud'homaux jugent plus en équité et que une autre réalité, c'est qu'ils conservent parfois des habitudes qu'ils ont prises d'un combat syndical, qu'il soit employeur ou qu'il soit salarié, et qui donne effectivement des a priori dans l'appréciation d'un litige.
Alors voilà, on en a beaucoup débattu, et il apparaît que la condition d'esclave en fuite ne représente pas la perspective d'une carrière épanouissante.
Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Comment ça se fait que ce ne soient pas des juges professionnels, enfin des magistrats professionnels, qui nous paraissent peut-être plus objectifs, qui arbitrent ces litiges professionnels ?
Alors c'est quelque chose qui est aussi ancien que curieux. Effectivement, ça date d'une période moyenâgeuse, je crois même d'un haut Moyen-Âge, puisqu'il y avait à l'époque entre les personnes qui étaient entre guillemets les apprentis, même si ce n'était pas la terminologie à l'époque, et les artisans qui les embauchaient, il devait y avoir des conciliations qui existent toujours, et ensuite des jugements qui avaient lieu entre eux pour ensuite être confiés à la justice féodale ou du roi s'il devait y avoir des litiges qui persistent. Et au 18e, 19e et 20e siècle, les conseils de prud'hommes ont été vraiment institutionnalisés avec la répartition en plusieurs sections, encadrement, industrie, commerce, activités diverses et agriculture. C'est quelque chose qui est très très ancien et qui reste ce qu'on appelle l'échevinage, c'est-à-dire des juridictions qui sont professionnelles.
Et du coup, en cas d'appel justement de la décision prud'homale, si jamais elle ne vous satisfait pas ou jamais elle ne satisfait pas la partie adverse, j'ai cru comprendre qu'on partait en cour d'appel, donc dans la chambre dite sociale. Et là, en revanche, ce sont des magistrats qui appliquent le droit, donc j'imagine avec peut-être davantage d'équilibre.
Alors, ce qui est curieux, c'est que près de environ 75% des demandes des salariés sont satisfaites, et environ 75% des demandes des employeurs sont aussi satisfaites. C'est-à-dire que finalement, celui qui saisit a 75% de chances d'obtenir gain de cause, sauf que, bien évidemment, principalement, il s'agit de 95% des salariés qui sont ceux qui saisissent le conseil de prud'homme. Même si la plupart des parties qui saisissent, que ce soit l'employeur ou le salarié, gagnent dans 75% des cas, ce n'est apparemment jamais satisfaisant, puisque le taux d'appel est extrêmement important. Entre 50 et 70% des affaires vont devant la chambre sociale. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la chambre sociale et les magistrats professionnels ont une vision, je dirais, beaucoup plus pure du droit, pas du tout en équité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dire que moralement, le salarié, peut-être qu'il a raison en droit, mais que c'est quand même pas très normal de lui donner tel ou tel montant. Je dirais qu'il y a une application froide de la loi, et en respect de la Cour de cassation, qui sont aussi des magistrats professionnels, que respectent bien évidemment les magistrats de la Cour d'appel. Donc voilà, donc il y a des décisions qui sont, je dirais, un peu plus attendues, puisqu'elles répondent un peu plus à la jurisprudence stricte de la Cour de cassation.
Et du coup, les indemnités, généralement, elles sont plus élevées en appel ou plus basses ?
En fait, elles ne sont pas nécessairement plus élevées en appel, mais disons qu'il y a des demandes, c'est plutôt en termes de demandes, il y a des demandes qui n'ont pas été satisfaites en première instance, sur lesquelles on a été débouté, des heures supplémentaires ou un harcèlement moral ou etc. Parce que en équité, les conseillers prud'homaux, on peut penser que bon, non, c'était pas dû, ou que les heures supplémentaires avaient été faites, mais qu'on était un peu d'accord pour les faire, etc. Et que voilà, ou qu'on était assez bien payé et que finalement, à ce prix-là, on pouvait exécuter les heures supplémentaires. Et puis, il y a une cour d'appel qui, elle, va entrer en voie de condamnation sur des chefs qui ont été écartés, dont on a été débouté, parce que l'application stricte du droit fait que même si tout un chacun pourrait se dire « Oh, zut, ça fait quand même des grosses sommes pour quelqu'un qui les a jamais demandées, etc. » Puis là, d'un seul coup, on demande 100 000 euros. Mais hein, une cour d'appel, sans aucun état d'âme, et même s'il s'agit d'un petit artisan qui est l'employeur de ce salarié et qui va couler derrière ou qui va être en redressement judiciaire, va le condamner à payer 100 000 euros sans aucun état d'âme.
Le patron vous fait prévenir qu'il vous attend dans son bureau de la Batte.
Merci, le dentu.
On donne une image peut-être de la justice assez rapide, alors qu'en fait, ben, c'est un peu plus long, hein, ces combats, et assez coûteux, et j'imagine que ça peut être assez décourageant. On parle quand même de plusieurs années, et elle peut aussi coûter cher. Est-ce que cette durée et son coût ne sont pas, on va dire, déstabilisants et surtout décourageants pour les salariés ?
Depuis 2016, effectivement, il y a une procédure de rupture conventionnelle qui a été mise en place, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'entente possible avec l'employeur, il fallait qu'il y ait un licenciement pour qu'ensuite on fasse une transaction et qu'on négocie un accord. Donc, s'il n'y avait pas de licenciement préalable ou de démission, il ne pouvait pas y avoir d'entente entre employeur et salarié. ce qui était un peu ubuesque. Bon, la loi est intervenue et a créé effectivement la rupture conventionnelle, mais aussi l'avantage de ça, c'était de pouvoir bien évidemment négocier avant tout licenciement et de pouvoir se séparer avec un petit pécule ou un pécule important, ça dépend de qui était le demandeur à cette rupture conventionnelle, c'est un autre sujet, mais c'est aussi surtout parce que les salariés peuvent négocier une rupture conventionnelle sans justement avoir à craindre les délais de procédure, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une procédure prud'homale, en résumé, elles sont pas partout les mêmes en France, mais on peut dire grosso modo que c'est un an de procédure. Si jamais vous avez, comme cela arrive dans maintenant 20 à 30% des cas, que les quatre conseillers prud'homaux ne sont pas d'accord et que vous avez deux voix contre deux voix, vous devez passer devant ce qu'on appelle un juge départiteur, qui est un juge professionnel qui vient s'ajouter à la composition de quatre personnes. Du coup, il y a nécessairement une majorité qui se dégage. Vous rajoutez un an et demi de procédure. Et si vous faites appel, vous rajoutez un an et demi de procédure. On est donc à près de 3 ans, plus 1 an, 4 ans minimum, s'il n'y a pas de demande de renvoi, etc. Sinon, on est à 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et tant que vous n'êtes pas à la décision finale, toutes les demandes, sauf les demandes à caractère salariales, ne sont pas exécutoires de plein droit. C'est-à-dire que c'est suspensif. Si vous gagnez en première instance, j'en sais rien, 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et qu'il y a un appel, bah vous devrez attendre 4 ans pour que ce soit confirmé, pour que les 10 000 euros soient payés. Vous avez donc tout intérêt, effectivement, à négocier tôt si vous n'avez pas envie d'attendre 4 ans ou 5 ans pour avoir vos 10 000 euros, c'est certain.
C'est comment travailler ? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je ne sais pas quand...
Et justement, est-ce que les ordonnances Macron, alors on en a assez peu parlé jusqu'ici, est-ce qu'elles n'ont pas tué le game en modifiant et en instaurant en fait des plafonds pour les indemnités ?
Elles ont tué le game d'abord sur les délais de prescription, puisqu'avant, si vous aviez travaillé de manière docile des heures supplémentaires pendant de longues heures, mais que vous n'aviez jamais osé le dire parce que vous aviez peur de perdre votre emploi si vous osiez les demander, etc., et qu'au moment où vous apprenez que vous allez être licencié, vous dites c'est fort quand même, du coup je vais en profiter pour demander mes heures sup parce que j'ai travaillé comme un bon petit soldat, et bien avant vous pouvez demander sur les 5 dernières années, maintenant vous ne pouvez demander que sur les 3 dernières, alors que ce sont des heures que vous avez réalisées, vous ne pouvez demander que les 3 dernières années et pas les 5 dernières années. Et encore, vous devez, de la même manière, pour le licenciement, vous pouvez, avant c'était 30 ans, vous pouvez maintenant ne le demander que pendant un an. Si pendant un an vous ne le demandez pas, vous êtes mal conseillé ou que un délégué syndical ou un avocat essaye de négocier et que ça n'aboutit pas et qu'il ne saisit pas pourvu rapidement le conseil de prud'homme, vous pouvez être débouté alors même que vous avez été licencié. Bref, tout ça pour dire que déjà les délais de prescription font que maintenant vous gagnez beaucoup moins et vous avez intérêt à vous dépêcher beaucoup plus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, avant vous aviez deux distinctions grosso modo selon que vous aviez plus de 2 ans ou moins de 2 ans d'ancienneté, et selon que la société avait plus de 11 salariés ou moins de 11 salariés. Si vous aviez moins de 2 ans, grosso modo, d'ancienneté, vous pouviez solliciter en fonction du préjudice subi. Alors, ça veut dire que ça pouvait être 1 mois, 2 mois, mais ça pouvait être aussi beaucoup plus. Et puis, si vous aviez plus de 2 ans d'ancienneté, là, c'était automatiquement 6 mois de salaire. Et en plus, si après vous démontriez que vous aviez 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou que ça avait été fait dans des conditions humiliantes ou que on vous avait reproché plein de choses, qu'on vous avait mal parlé, qu'on vous avait demandé des tâches qui ne relevaient pas de vos fonctions ou qu'on vous avait mis dans une pièce sans ordinateur ou ce genre de choses, vous pouviez bien évidemment faire évoluer les choses et monter le montant. Vous pouviez aussi monter le montant par rapport à votre âge. C'est-à-dire que si vous aviez 60 ans ou 65 ans, bien évidemment, le conseiller prud'homal en prenait acte pour augmenter aussi votre réparation du préjudice. Maintenant, tout cela n'existe plus. Le préjudice, il est plafonné. Que vous soyez âgé, que vous ayez été licencié de manière absolument abjecte, peu importe. On ne regarde juste que quelle est votre ancienneté. Voilà le seul point. Et si vous avez 4 ans ou 3 ans ou 2 ans d'ancienneté, vous valez 3 mois de salaire. Donc, je vais vous expliquer quelque chose de simple. Si vous valez 3 mois de salaire, que vous gagnez 3 000 euros. Ça veut dire que vous pouvez gagner maximum en contestant votre licenciement, si vous le saisissez dans le délai d'un an, rapidement, vous pouvez gagner 9 000 euros. Un avocat va vous revenir 3 000, 4 000 euros, admettons. Vous allez gagner donc déjà que 5 000 euros si vous devez aller effectivement devant un conseil de prud'homme. Le tout au bout de 4 ans. Voilà. Et votre employeur va vous dire, bah, écoutez, je vais vous licencier. Plutôt que de vous proposer 4000 euros, parce que c'est ce que vous aurez à la fin et dans 5 ans, et encore, si vous gagnez, puisqu'il y a toujours l'aléa judiciaire, je vais vous proposer de vous donner un mois ou deux mois de salaire, et puis vous partez. Voilà, gentiment, monsieur Dupont, nous allons nous quitter, on va vous donner un ou deux mois de salaire. Et le salarié va accepter. Parce que l'idée qu'il ait un aléa sur 5 ans, qu'il va gagner que 4000 euros, alors qu'avant il aurait gagné 6 mois ou plus, puisqu'il avait plus de 2 ans d'ancienneté, il aurait pu gagner 10 mois, c'est-à-dire 30 000 euros, et bien là, il se retrouvera avec 4000 ou 5000 euros maximum, et encore l'employeur aura l'impression d'avoir fait un geste très agréable.
Alors qu'est-ce qu'on fait, patron? On rentre?
Moi, les trains de patin, je les remets au travail vite fait.
Et juste avant justement les ordonnances Macron, donc qui sont entrées en vigueur ce 1er janvier 2018, on a eu la loi El Khomri. Qu'est-ce qui fait que le droit du travail est aussi malléable? On a l'impression, est-ce qu'il est facile à modifier ce droit?
On a eu une période où les acquis sociaux depuis 36 et même bien avant ont été acquis de autres luttes, mais ça c'est l'histoire de France et c'est l'histoire finalement sociale. Apparemment, effectivement, ça ont été des combats très durs, très difficiles. Il est curieux de voir que tout cela a été détricoté et vraiment quasiment anéanti, ne serait-ce que dans sa philosophie, puisque le droit social a toujours évolué dans la protection des salariés, avec des CHSCT, avec des conditions de sécurité, avec de l'ergonomie, avec de la lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, avec des textes pléthoriques qui ont défendu vraiment les salariés sur l'obligation de donner un motif pour licencier quelqu'un. Il faut que le salarié maintenant le demande pour qu'effectivement on lui fasse l'aumône de bien vouloir lui dire pourquoi il est licencié. Eh bien, toutes ces avancées sociales ont été finalement complètement abandonnées en très peu de temps. La lutte sociale n'a pas été, enfin, je suis désolé de le dire, exceptionnelle. Finalement, c'est passé assez facilement. On a un peu négocié avec les syndicats après que les décisions soient prises. Et on a l'impression qu'on est vraiment sur une machine arrière absolue qui donne des droits au patronat d'une manière, et je ne fais pas de politique, je vous l'assure, vraiment extrêmement important. Quelque chose d'assez choquant pour qu'on soit de droite ou de gauche pour les avocats de droit social qui défendent les employeurs ou les salariés. C'est extrêmement choquant de voir effectivement comment, avec une telle tranquillité, on peut effectivement réduire le droit des salariés.
Et du coup, quels sont vos conseils aujourd'hui à quelqu'un qui se retrouvait effectivement face à un licenciement ou face à une proposition en mode ben, je te donne tes 2 mois et tu devrais t'estimer heureux?
Bon, on est obligé de faire des contre-feux et d'essayer de trouver effectivement d'être un petit peu imaginatif. Alors, c'est vrai que la plupart des avocats, nos idées, je ne dévoile pas, je ne trahis pas de secret, nos idées sont généralement d'essayer d'aller sur le terrain du harcèlement moral ou d'aller sur le terrain de la discrimination, ce genre de sujet-là. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur ces sujets-là, qui sont des violations des libertés individuelles, etc., des libertés fondamentales, on retombe sur l'ancienne législation, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur les lois Macron, on peut revenir à l'ancienne législation avec plus de 6 mois de dommages et intérêts dès qu'on a plus de 2 ans d'ancienneté et de monter, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, dans les tours, si on explique voilà, la manière dont ça a été fait, l'ancienneté, l'âge, c'est-à-dire en revenant avec les vieux critères. Donc effectivement, on essaye de contourner. Le problème, c'est que dans la réalité, la discrimination et le harcèlement moral sont des demandes, parce qu'elles sont en fait très très encadrées par la loi, très difficiles à obtenir, qui n'aboutissent que très rarement, parce que rares sont les dossiers qui aboutissent sur ces sujets-là. Du coup, on ne peut pas aller vraiment sur d'autres terrains, sur ces terrains-là. Après, il y en a d'autres qui sont des failles qu'on peut trouver dans le contrat de travail. On peut valoriser nos demandes sur d'autres chefs de demande précisément à des montants beaucoup plus importants que ceux qui seraient compris dans la loi, dans les plafonds Macron. C'est-à-dire que les plafonds Macron deviennent finalement l'indemnisation du préjudice lié au licenciement devient finalement quelque chose de secondaire et on a d'autres demandes principales qui peuvent être, j'en sais rien, sur la clause de non-concurrence, qui peuvent être sur la durée du travail, sur les heures supplémentaires, sur le travail dissimulé, sur ces choses-là.
Sur d'autres formes d'abus en quelque sorte.
Sur d'autres formes d'abus qui peuvent et qui se chiffrent très facilement et très vite.
Alors j'utilise justement le terme d'abus parce que la grande question de ce podcast aujourd'hui c'était le droit du travail est-il, entre parenthèses, encore équitable?
Je ne peux plus m'enclenturer comme ça, papa. Ça me fait peur.
Au travail.
Oui, il était plutôt équitable avant et limite, les salariés étaient très, alors je ne vais pas dire trop protégés. Et aujourd'hui, au contraire, la balance est totalement inversée.
Disons que les salariés étaient protégés. La réalité, c'est qu'ils étaient protégés, pas trop protégés. Ils étaient protégés. Qu'on considère des droits comme connaître le motif de son licenciement, comme ne faire requalifier des CDD en CDI si jamais on n'était pas effectivement embauché pour une tâche temporaire, mais qu'on était effectivement embauché sous une fausse période d'essai, ou si on demande effectivement qu'on soit payé de ses heures supplémentaires et qu'elles soient indiquées sur le bulletin de salaire pour que ça cotise justement pour les cotisations retraite. retraite ou autre, ça me paraît pas effectivement quelque chose qui permette aux gens d'hurler en disant « Oh, les salariés ont trop de droits ». Donc effectivement, c'était simplement défendre les salariés. Il n'y avait pas une trop grande défense des salariés. Effectivement, les lois El Khomri, parce qu'il faut aussi rappeler cette loi-là, et Macron ont absolument défait cette sorte d'équilibre. Et effectivement, les employeurs maintenant, d'abord, gagnent de plus en plus devant le Conseil de Prud'homme. Il y a de moins en moins, il y a près de 100 000 demandes en moins qui ont été faites cette année devant les conseils de Prud'homme, pour près, je crois, de 400 000 ruptures conventionnelles, parce que maintenant, le moyen de la rupture conventionnelle est le plus simple et d'une facilité absolue pour les employeurs pour, à vil prix, licencier des salariés. Et puis, effectivement, l'égalité n'est plus là. Alors, il peut y avoir l'égalité. Vous demandiez s'il y avait encore une égalité. Je serais tenté de vous dire, mais je ne plaide pas pour ma profession, que l'égalité peut encore ne pas être tout à fait stricte si le salarié s'entoure de très bons conseils. Mmh. Parce que la loi reste quand même, sur beaucoup de domaines, encore très difficile à appliquer pour les employeurs qui ne se renseignent pas, qui n'ont pas un service juridique, voilà, et qui ne rédigent pas des contrats comme ils devraient, etc.
Ok.
Bah, il n'est pas là, le patron.
Il dort dans les chauffleurs.
Quoi, ça ?
Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième inégalité qui se crée entre deux formes de plaignants, les plaignants qui ont les moyens qui ont un intérêt à porter l'affaire en justice, et ceux qui, ok, je prends ce qu'on me donne et puis marre.
Les gros salaires ont le temps d'attendre, puisqu'ils ont généralement une situation aisée. Ils ont le temps d'attendre 4-5 ans. Ils ont les moyens de payer un avocat. Quelqu'un qui, effectivement, gagne 1 000 euros par mois à 4 ans d'ancienneté et peut espérer gagner 5 mois de salaire alors qu'il gagne 1 300 euros et qu'il va gagner 8 000 euros à l'arrivée. Si déjà la moitié est amputée par des honoraires d'avocat, plus 10% du pourcentage qu'il va prendre, plus d'attendre 5 ans et qu'il en a besoin pour payer sa maison, pour payer je ne sais quoi, bien évidemment, à tout intérêt, lorsqu'on lui propose, pour éviter tout litige, un mois ou deux mois de salaire, eh bien, il va accepter, là où quelqu'un qui gagne 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros n'acceptera pas et dira on ira jusqu'au bout et essaiera en plus d'avoir un avocat suffisamment brillant pour pouvoir effectivement avoir quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros sur un autre sujet que celui pour lequel on l'a saisi.
C'est quand même une triste conclusion.
C'est malheureusement une réalité.
Les histoires d'amour finissent mal en général, disait Lerita Mitsuko. On ne peut pas dire que les histoires de boulot connaissent une fin plus heureuse. Breaking news, ça ne va pas changer à deux ou trois détails près. Cette année, sans doute les suivantes, les avocats auront certainement moins de divorces professionnels à défendre. On l'a vu, poussés par les ordonnances matrimoniales Macron, les séparations douloureuses risquent d'être progressivement requalifiées en rupture conventionnelle. Non seulement tout le monde n'en tire pas la même satisfaction, mais ce nouveau régime pourrait bien donner des idées à plus d'un DRH gêné aux entournures par un salarié. Mais l'on ne présume de rien, sinon d'une chose. Que vous soyez patron, salarié, sans emploi ou étudiant, on espère que cet état des lieux du droit du travail vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le nouveau terrain de l'emploi. Maître Saint-Michel, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci encore d'avoir pris le temps de détailler avec nous l'édition 2018 du Code du Travail. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode de Juste un Droit. Pour les commentaires et les étoiles, c'est sur notre page iTunes que ça se passe, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à audio@20minutes.fr. À la prochaine, et que justice soit faite.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Juste un droit.